Les cours du Collège de France, Denis Duboul, chaire Évolution du développement et des génomes.
Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver. Un horaire un peu différent, plus tôt dans l'année, plus tôt dans la journée. J'espère que ma voix va aller jusqu'au bout de cette première leçon de ce cours 2025 que j'ai décidé de consacrer à un domaine qui est vraiment totalement central lorsque l'on s'intéresse au développement des embryons, à leur évolution, mais aussi à la façon dont les génomes fonctionnent, à la façon dont les génomes évoluent, qui est le grand domaine de la régulation génétique. C'est un domaine qui évidemment comprend de très nombreuses couches, de la bactérie, la génétique. Et ce que j'aimerais discuter pendant ces six leçons, c'est vraiment un point particulier dans ce domaine de la régulation génétique, qui est l'utilisation, l'évolution, le fonctionnement de petites séquences auxquelles on fait référence généralement en tant que séquences enhancer, on verra pourquoi, qui sont en fait des sortes d'interrupteurs génétiques qui peuvent travailler soit proche des gènes, soit à une distance respectable. C'est un domaine qui m'est très cher personnellement, puisque c'est dans ce domaine que mon laboratoire a travaillé pendant pratiquement des décennies, travaille toujours. Et j'avais déjà décidé de vous parler de ces séquences enhancer. C'était il y a 5 ans, en 2020, avant qu'un virus intempestif, mais vous en souvenir, différent de celui que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui, mais avant qu'un virus vienne changer un peu la donne, ce qui m'avait obligé à faire 4 cours rétrécis sur Internet, et ça m'avait laissé un goût un peu de frustration, et j'avais décidé à ce moment-là de refaire ce cours plus poussé, plus approfondi, une fois. Et puis il se trouve que ces dernières années, et vraiment quand je dis ces dernières années, je parle de 2023, 2024, voire même le début de 2025, ont été publiées des études qui sont extrêmement intéressantes, remarquables dans ce domaine. Et je me suis donc dit que c'était vraiment l'année pour vous en reparler. Voilà, je vais, comme les années précédentes, je vais commencer doucement avec les 2 premières leçons qui seront des leçons un peu d'introduction pour rappeler des concepts, pour introduire des mots, pour vous montrer comment ces enhancers ont été découverts, à quoi ils correspondent, comment on les trouve aujourd'hui, combien y en a-t-il, comment on estime qu'ils ont une capacité fonctionnelle. Et puis les 4 dernières leçons, alors on rentrera dans des choses un peu plus compliquées, dans des analyses de publications qui, vous le verrez, sont vraiment très très intéressantes. La question fondamentale, bon, vous la voyez énoncée ici, est que pendant le développement des animaux, des gènes bien sûr doivent être activés, maintenus, désactivés, et tout cela à des temps extrêmement précis et dans des endroits extrêmement précis. Et la question que les gens se posent depuis qu'on a découvert l'équivalent génomique, sur laquelle je vais revenir dans une minute, c'est quels sont les signaux qui sont capables de régler cette chorégraphie, en fait. Qu'est-ce qui détermine qu'un gène s'active à un temps T1, à se désactiver à un temps T2, etc. Eh bien, précisément, une des raisons principales de cette dynamique d'expression génétique se trouve dans la présence de ces séquences enhancer. Voilà, le cours va se diviser donc en 6 leçons, comme d'habitude, 2 leçons d'introduction, On parlera dans la troisième leçon des mécanismes qui sont capables de faire fonctionner ces séquences à des distances invraisemblables. On n'avait pas du tout imaginé dans les années 70-80 que des éléments de régulation de gènes se trouveraient très éloignés du gène lui-même. Et on verra pourquoi, en fait, quelles sont les raisons pour lesquelles nos génomes ont conservé ces curiosités. Et puis, on parlera ensuite d'un topic qui est en train de ressurgir de façon récurrente d'ailleurs, tous les 10 ans, tous les 15 ans. C'est la place prépondérante que commencent à prendre les éléments transposables dans la régulation génétique. On a longtemps pensé que les éléments transposables, les transposons, avaient participé à l'évolution de nos génomes en transposant. Mais on s'aperçoit aujourd'hui qu'en fait, ces éléments participent également, ont participé également à apporter des éléments de régulation à certains gènes proches desquels ils ont transposé. Et puis, on verra ensuite une étude extrêmement intéressante sur la grammaire des enhancers, c'est-à-dire ces séquences d'ADN, comment reconnaissent-elles, comment sont-elles reconnues par des protéines ? Quels signaux, quelles séquences d'ADN particulières ? Est-ce que l'on peut utiliser de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage profond, pour aller essayer de comprendre cette grammaire et de produire des enhancers synthétiques qui permettraient dès lors de retourner peut-être sur des nouvelles avenues thérapeutiques, hein, de pouvoir exprimer un gène, de pouvoir décider, voilà, cette séquence d'ADN devrait pouvoir s'allumer, devrait pouvoir allumer le gène cible à côté, exactement dans ce type cellulaire, à ce temps précis. Et puis finalement, on parlera un peu d'évolution. Peut-on comprendre d'où sortent ces séquences enhancers ? Comment ont-elles évolué ? Et comment ont-elles évolué en groupe ? Comment se fait-il, comme nous allons le voir, comment se fait-il qu'on trouve quelque part dans le génome soudainement un groupe de ces séquences enhancers ? Est-ce qu'elles fonctionnent ensemble ? Est-ce qu'elles sont additives ? Est-ce qu'elles sont synergistiques ? Voilà. Avant de commencer, j'aimerais encore vous rappeler que pour ceux d'entre vous qui sont intéressés alors vraiment aux data primaires, il y aura le colloque de ce cours le 11 avril 2025, un colloque auquel participeront, je dois vous dire, pratiquement l'ensemble des leaders européens de cette recherche sur les enhancers. Alors, ce ne sera peut-être pas d'un niveau extrêmement de vulgarisation extrême, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas, venez à ce colloque. Voilà. Donc, introduction objective du cours, définition, relation avec la notion de promoteur. Je vais quand même vous rappeler, peut-être ça m'a ennuyé quelques-uns d'entre vous, mais vous redonner quelques bases vraiment fondamentales de ce qu'on appelle la transcription, parce qu'autrement on ne comprendra pas de quoi je vais parler. Donc pour ceux d'entre vous qui vraiment suivent ces choses et les comprennent, eh bien, excusez-moi pour l'heure qui va, pour les 30 minutes qui vont suivre. Voilà. Comme vous le savez, la notion d'équivalence génomique, donc le fait que toutes nos cellules contiennent, en principe, parce qu'évidemment, certaines cellules, comme vous le savez, qui produisent des anticorps, etc., ont des petites différences, mais en principe, toutes nos cellules ont le même ADN. Ça nous paraît totalement trivial aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui était trivial il y a un siècle, et la découverte de l'équivalence génomique, qui est une découverte dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est absolument fondamentale, a induit tout un nombre de questions qui, aujourd'hui, ne sont pas encore résolues. C'est-à-dire, si toutes les cellules ont le même ADN, comment se fait-il qu'elles ne soient pas toutes pareilles ? Voilà. Alors, elles ne sont pas toutes pareilles, on le sait pourquoi. Parce que chaque cellule, chaque groupe de cellules, implémente un type de régulation génétique différent. Donc le complément de gènes qui sont exprimés et par conséquent les constituants en protéines sont différents d'une cellule à l'autre. Comment l'expression d'un gène peut-elle s'insérer dans la temporalité de l'embryon? C'est la question que je posais tout à l'heure. Comment décider quand un gène va s'activer, quand un gène va se désactiver, qui évidemment est aussi une question absolument critique, puisque parfois on ne peut pas laisser un gène continuer à faire son travail, qui aurait été bénéfique pour la cellule pendant un moment, mais qui devient délétère après, donc il faut absolument l'arrêter. Et puis, comment déclencher la transcription d'un gène particulier dans un type cellulaire particulier? Donc il y a ces deux questions, la question du temps et la question de l'espace. On verra en fait que ce sont deux questions qui sont liées de façon très intime. Pour mieux expliquer ce problème, j'ai repris le schéma de différenciation cellulaire, ce travail absolument incroyable de John Sulston, qui lui valut le prix Nobel d'ailleurs il y a quelques années. Ce que vous voyez là, en fait, c'est en haut, ici le zygote, donc l'œuf, ici, de Sonorabditis elegans, qui est un petit nématode, une sorte de ver, mais qui n'est pas un ver, en fait, un petit nématode qui vit dans le sol et qui a un peu moins de 1000 cellules, à peu près 350 neurones. Et le nombre restreint de cellules a permis à John Sulston d'identifier l'origine de chaque cellule. Donc c'est un cas unique. Vous voyez ici, on part du zygote avec une division en deux cellules, ici, ici, puis division, 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 etc., etc. J'ai déjà eu l'occasion de vous en parler. C'était une vraie révolution en biologie du développement, notamment puisque ça a permis de voir que certaines cellules disparaissaient de façon active, toujours les mêmes. Ce qu'on appelle l'apoptose. C'était la définition de l'apoptose qui, comme vous le savez, est un phénomène absolument critique, notamment lorsque l'on parle du cancer, etc. Je vous remonte ce schéma pour ici superposer quelque chose qui est totalement fictif, qui est quelque chose que j'ai coloré moi-même, où l'on voit cette cellule qui dérive de cette cellule, qui dérive de cette cellule, qui ici va se diviser en deux, et cette cellule-là va activer un gène. Ce gène va rester activé. Par contre, lors de cette division, cette activation ne va tenir que dans une des cellules filles. L'autre cellule ici va désactiver le gène. Et puis ce gène va continuer à être exprimé. Nouvelle division. Cette fois, il va rester exprimé dans cette cellule, va s'arrêter dans celle-ci. Il va continuer à être exprimé, et puis il va s'arrêter. Ce qu'on appelle une trajectoire d'expression. Et aujourd'hui, on arrive expérimentalement, et je vous montrerai quelques détails, à pouvoir suivre ces trajectoires d'expression, à pouvoir suivre des cellules, à voir leur progéniture, cellules filles, cellules petites filles, et de mettre par-dessus ces trajectoires d'expression, de voir qu'un gène va être activé, maintenu ou désactivé. Comment faire pour que cela fonctionne? Comment est-ce possible? Quelle sorte de signal peut être donné ici? Une cellule qui va se diviser en deux, une cellule fille activant un gène particulier, l'autre cellule ne l'activant pas. Alors il y a plusieurs raisons. Il peut y avoir des raisons intrinsèques. On peut par exemple penser à une division asymétrique. On en a également parlé dans des cours précédents, où la division, au lieu de donner deux cellules qui sont parfaitement identiques l'une à l'autre, ce qui serait compliqué à expliquer dans ce cas particulier, on peut avoir une cellule qui va hériter d'un peu plus de quelque chose et dans la balance, qui va donc activer un gène particulier, alors que l'autre ne le pourra pas. Il y a aussi évidemment des questions extrinsèques, puisque cette cellule-là peut se trouver à proximité géographique d'une autre cellule, ou peut-être même toucher une autre cellule, qui va lui donner un signal, qui va conduire à l'expression, alors que la cellule qui est à côté, ici, sa sœur, n'aura pas cette même proximité. Donc il peut y avoir les deux facteurs, peut même y avoir une combinaison entre ces deux facteurs. Mais la transmission du signal, le fait que soit toucher une cellule, soit hérité de quelque chose de la cellule mère, la transmission du signal doit passer par une séquence particulière qui va reconnaître ce signal et qui va dire au gène, on y va. D'accord ? C'est ce type de séquence, des séquences enhancer, dont je veux vous parler. J'ai parlé de séquences interrupteurs. Alors, on utilise parfois ce terme d'interrupteur en français. C'est un terme qui, à mon avis, est assez maladroit. Je vais l'utiliser tout de même. Parce qu'un interrupteur, généralement, un interrupteur, c'est quelque chose de discret. C'est soit on y va, soit on n'y va pas. Ces séquences enhancers sont un peu plus fines. On peut aller un peu plus. Ce serait plus une question de variateur, en fait. On peut activer, mais un peu. Pas trop. Ou un peu plus. Ou un peu moins. Et c'est pour ça qu'on préfère les appeler des séquences enhancer. Donc, une nécessité de disposer de ces interrupteurs, de ces enhancers spécifiques, mais d'en disposer de façon multiple. Parce que on ne peut pas utiliser, par exemple, la même séquence pour activer un gène et pour lui dire d'arrêter. Donc, il faut avoir une séquence pour activer, il faut avoir une séquence pour arrêter. L'alternative, c'est que le signal qui se lie à l'enhancer et qui dit activer, ce signal disparaît. Donc là, on a un arrêt de l'activation. Et généralement, on va avoir des séquences qui vont être plutôt activatrices, plutôt répressives. Alors, on peut le voir dans cet exemple-là, hein, que je vous remonte. Ici, cette cellule qui exprime, en se divisant, va devoir arrêter l'expression. Là encore, on peut penser à des raisons intrinsèques ou on peut penser à des raisons extrinsèques. Peut-être que cette cellule maintenant est positionnée à un endroit, il y a un gradient de molécules externes, par exemple, qui va faire que ça va s'arrêter. D'accord. Ou on peut penser à quelque chose d'interne à la cellule. Alors, la nécessité de la présence de ces enhancers, en fait, si on y réfléchit un peu, elle s'explique par l'évolution de nos génomes. Et je voulais revenir une minute sur cette image, le haut de cette image que je vous ai déjà montré à deux reprises, et qui caractérise, je dirais, les trois grandes étapes de ce qu'on appelle la révolution génétique des années 80-90. Premièrement, la découverte en 1985, aux alentours de 1985, que les gènes sont, entre guillemets, universaux. Alors là encore, c'est quelque chose qui nous paraît totalement trivial aujourd'hui. Mais quand j'ai fait mes études, c'était quelque chose d'impensable. C'est-à-dire que les traits différents entre espèces animales, par exemple, s'expliquaient par la présence de gènes différents. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas le cas. En 90, je dirais, universalité des principes. Là, c'est vraiment une étape supplémentaire. On dit non seulement on partage nos gènes avec l'ensemble des animaux, même les animaux les plus improbables. Mais en plus, la façon dont ces gènes fonctionnent, les réseaux dans lesquels ils sont impliqués, la façon dont les cellules se parlent, les voies de signalisation, tout ça s'est conservé. Là, je ne vous parle pas des oiseaux ou de nos cousins mammifères, je vous parle vraiment des invertébrés, même des hydrozoaires. Hein. Et puis, en 95, on se dit, mais finalement, ce n'est pas tellement étonnant parce que si l'on regarde les génomes, bien évidemment, les génomes sont différentes, les espèces. Mais dans le fond, c'est quand même assez semblable. La façon dont les choses sont codées, la façon dont les séquences sont organisées, tout ça, c'est extrêmement conservé. À partir de là, on est passé à un changement de paradigme. C'est très compliqué à intégrer ça dans une pensée biologique. On est passé d'une explication qui était basée sur la présence ou l'absence de gènes particuliers à une explication qui est basée sur l'utilisation différente des mêmes gènes. Là encore, ça nous semble totalement trivial. Le problème, c'est qu'on réfléchit et qu'on a ce côté anthropomorphique, anthropocentrique, qui fait qu'on a beaucoup de peine à intégrer cette conclusion, en fait. Elle est là depuis 40 ans et on a toujours beaucoup de peine. Et même au sein de la communauté scientifique, on a énormément de personnes qui cherchent, pour essayer de trouver des gènes dans le cerveau qui pourraient expliquer notre supériorité invraisemblable par rapport à ces autres animaux. C'est difficile d'admettre qu'en fait, nos capacités, notre force, le fait qu'on a eu une évolution absolument extraordinaire, est due à une façon d'utiliser le même matériel qui est utilisé par des invertébrés. C'est difficile. Lorsque l'on revient sur ce petit nématode qui a 950 cellules, eh bien, on s'aperçoit que son génome contient 15 000 gènes, comme en gros tous les génomes des invertébrés. Ça peut varier un peu, mais que ce soit des mouches, des insectes, des crustacés, peu importe, on est toujours un peu en dessous de 20 000 gènes. Et puis lorsque l'on regarde le génome d'Homo sapiens, ou de n'importe quel vertébré finalement, on est toujours un peu en dessous de 20 000 gènes. 22 000, sauf des espèces qui sont polyploïdes, évidemment, ça existe, les poissons. Mais... Et donc la question c'est, pourquoi est-ce que, comment c'est possible que nous ayons réussi à développer une telle complexité, notamment dans notre système nerveux, mais pas que, avec un nombre de gènes qui est relativement comparable à celui des nématodes, c'est-à-dire des animaux qui n'ont guère que 360 neurones. Et la réponse à cette question, en fait, transparaît déjà des études des années 70, finalement, comme je vais vous le montrer, mais s'appuie sur vraiment trois piliers différents. Premièrement, il y a eu une complexification des structures géniques. Vous savez qu'un gène peut donner plusieurs ARN dans certains cas, selon, une fois de plus, la présence de séquences particulières d'ADN. Et donc, on a des structures géniques chez les vertébrés qui sont généralement un peu plus complexes que ce que l'on trouve chez d'autres animaux. Évidemment, si vous pensez qu'un gène peut donner trois ARN différents plutôt qu'un, ça fait trois protéines différentes, ou peut-être même plus avec des combinatoires. Si ces protéines peuvent être modifiées après par des composés chimiques qui se rajoutent, etc., on augmente la complexité de façon presque logarithmique, en fait. Il y a aussi évidemment une complexification des réseaux de gènes, comment ces gènes, ces protéines communiquent entre elles, etc. Mais une des raisons principales, c'est celle que j'ai mise en rouge ici, c'est la diversification des fonctions géniques. C'est la pléiotropie et la multifonctionnalité. Autrement dit, si on fait du plus compliqué avec le même nombre, on va demander aux gènes de faire plus de travail. C'est-à-dire, ces gènes vont être réutilisés dans des contextes multiples. Ces notions de variation dans la régulation, plutôt que de variation dans la structure, en fait, elles remontent, comme je vous le disais, aux années 70. Alors, je mentionne Alan Wilson et Marie-Claire King, parce que c'est des gens qui ont fait un travail formidable. Dans cette publication en 1975, où ils disent, mais les macromolécules, les protéines, sont tellement semblables entre les humains et les chimpanzés que seules des mutations de régulation peuvent expliquer les différences. À ce moment-là, on n'a absolument aucune idée de la structure des génomes, etc. Donc c'est vraiment une étude très très intéressante. Et puis, bien entendu, à droite, François Jacob, dans sa conférence de Berkeley en 1977, où il propose cette idée de bricolage de l'évolution, où il dit c'est une question de régulation, pas de structure. Alors évidemment, François Jacob avait l'avantage d'avoir beaucoup travaillé dans la régulation génétique, puisqu'il l'a pratiquement découverte en utilisant les bactéries, et en utilisant un opéron, l'opéron LAC, sur lequel je vais revenir, puisqu'on va parler du gène LACZ à satiété dans quelques minutes. Alors cet empilement successif de fonctions, ce recrutement d'un gène de développement particulier, je m'aperçois que j'ai oublié de vous dire une chose importante sur cette notion de gène de développement, en fait. C'est quelque chose qu'on utilise souvent et qui est absolument antinomique de ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que ces gènes sont utilisés pendant le développement, mais très souvent plus tard réutilisés chez l'adulte. Et donc on a tendance à appeler ces gènes des gènes de développement. Ces gènes n'existent pas. Ce sont des gènes qui, entre autres, ont une fonction cruciale pendant le développement. Alors, je ne vais pas vous faire cette périphrase chaque fois que je vais en parler, mais sachez simplement que cette notion de gène du développement, autrement dit, on aurait, disons, 5000 gènes dont la fonction serait de faire le développement. Puis ensuite, on ferme, et puis c'est une autre partie des chromosomes qui fonctionne. Non. Non. Si malheureusement, à l'heure actuelle où vous êtes en train de fabriquer des cellules de votre épithélium intestinal, maintenant, j'utilise des gènes qui ont été totalement essentiels pendant notre développement. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que ces gènes de développement ont été redéployés pendant l'évolution. Et en fait, il suffit de regarder où ces gènes sont exprimés pour avoir un tableau parfaitement complet de leur trajectoire évolutive. Je vous montre un exemple. Vous voyez ici l'expression d'un gène particulier, je ne vais même pas vous dire lequel. Ce que vous voyez, c'est un foetus de souris, et partout où vous avez cette coloration verte, coloration bleu-vert, qui est une coloration LACZ de bêta-galactosidase, partout cela vous montre où un gène particulier est exprimé. Et vous voyez des choses qui sont absolument remarquables. Par exemple, on a de l'expression dans un morceau d'intestin ici, c'est le cecum. On a de l'expression au bout des pattes. On a de l'expression dans les follicules de moustache ici. On a de l'expression dans des structures de la face qui dérivent de la crête neurale, etc. Et puis dans le système nerveux que vous voyez là, dans la future moelle épinière, le tube neural qui descend sur la partie dorsale. Bon, vous me direz, so what? Mais si l'on réfléchit au moment auquel ces structures sont apparues pendant l'évolution, on s'aperçoit qu'il y a des centaines de millions d'années de différence. Parce que un système nerveux dorsal, il existait déjà chez les procordés. Donc il existait il y a à peu près 500 millions d'années. Alors qu'en fait, si l'on regarde les follicules de moustache, c'est ce qu'on appelle une synapomorphie des mammifères, puisque tous les mammifères ont des follicules de moustache, et toutes les bêtes sur Terre qui ont des follicules de moustache sont des mammifères. Donc c'est un trait qui caractérise les mammifères. Les mammifères, c'est hier, c'est moins 170, moins 180 millions d'années. Et puis entre les deux, vous voyez cette expression dans les pattes, mais le bout des pattes, les doigts, ils apparaissent au Dévonien, dans la grande transition entre les poissons sarcoptérygiens qui ont des nageoires en eau benthique et puis qui soudainement acquièrent des doigts, c'est moins 380, moins 370 millions d'années. Donc vous voyez qu'il y a des centaines de millions d'années qui différencient ces sites d'expression. Donc on peut refaire l'histoire, on peut se dire, bien, chez un ancêtre, ce gène était exprimé dans le tube neural, dans le système nerveux neural dorsal, et puis au moment où les doigts sont apparus, il y a eu en parallèle, la cooptation de ce gène pour travailler dans les doigts. Alors on verra ce que ça représente en termes de séquence Enhancer. Et puis 100 millions d'années plus tard, voilà que des moustaches évoluent. Et parmi tous les gènes qui vont être cooptés pour faire fabriquer des moustaches, des follicules de moustaches, on va aller rechercher ce gène particulier. Donc lorsque l'on compare un paysage de régulation, comme je vais vous le montrer dans l'image suivante, lorsque l'on compare le génome avec un gène et le paysage de régulation où on voit tous les enhancers, on peut en quelque sorte assigner à chaque enhancer une date d'apparition. Et ça, c'est fondamental, parce que l'on peut commencer à réfléchir en comparant des génomes différents, de voir comment ces enhancers ont pu apparaître, puisque l'on connaît maintenant leur séquence d'apparition. Ça, c'est vraiment extrêmement intéressant, en fait. Alors, je vais vous montrer ici un exemple, cette fois, qui est un exemple réel, de la façon dont ces enhancers sont structurés et où on les trouve. C'est un exemple qui vient du laboratoire de Sean Carroll et qui montre, en fait, chez la drosophile qui a un gène qui s'appelle YELLOW. Et vous savez qu'en génétique, on avait l'habitude, c'est plus le cas maintenant, on avait l'habitude de nommer un gène en fonction du défaut, du phénotype que sa mutation induit. Le gène YELLOW est un gène qui, quand il est muté, donne une coloration YELLOW. D'accord ? C'est un peu, voilà, comme le gène Giant, le gène Knirps, ce sont des gènes qui, quand ils sont mutés, vous donnent des mouches mal fichues. Ce gène YELLOW, il a un promoteur ici, nous le verrons dans quelques minutes, et puis il a deux séries de séquences en amont sur l'ADN, une série de séquences qui travaillent dans l'abdomen, et une série de séquences qui travaillent dans l'aile. Donc, dans la situation normale, on a un haut niveau d'expression de ce gène YELLOW dans l'abdomen, donc l'abdomen est foncé, puisque c'est la mutation qui donne YELLOW. D'accord ? Et puis on a un bas niveau d'expression dans l'aile, ici, ce qui fait que l'aile est transparente. Lorsque vous induisez un gain de régulation, c'est-à-dire que vous rajoutez un élément de régulation ici, un facteur supplémentaire vient se lier, qui fait que dans l'aile, l'expression est boostée. Eh bien, on va avoir une tache qui va apparaître sur l'aile. Cette régulation-là ne change pas, donc l'abdomen ne va pas changer. Inversement, si vous maintenez la régulation dans l'aile normale, mais que vous diminuez, par exemple, par l'absence de cet élément, soit l'absence de morceau d'ADN, une petite délétion, une inversion, soit l'absence du facteur qui se lie à ce morceau d'ADN, vous allez voir une perte de régulation et l'abdomen va devenir YELLOW. C'est un exemple que j'aime beaucoup montrer parce que on peut se dire, oui, mais so what, qu'est-ce que ça peut faire un point noir sur une aile? Mais ça fait beaucoup parce qu'en fait, pour les drosophiles, ça peut être un signal de reconnaissance, par exemple pour les parades nuptiales, qui fait que la simple différence d'une petite séquence enhancer en amont d'un gène peut peu à peu commencer à séparer, à faire un phénomène de spéciation, parce que ces mouches vont plutôt reconnaître, certaines mouches vont être plus heureuses en voyant des petits spots noirs sur les ailes. Et c'est quelque chose que l'on trouve de façon naturelle, en fait. On va trouver des espèces de drosophiles qui auront des taches noires, des taches sur les ailes. Donc là, on commence à faire le lien, non seulement entre la présence ou l'absence de séquences enhancer et de traits évolutifs, mais je dirais même du fonctionnement de certaines de ces séquences. Un peu plus, un peu moins. On peut avoir une tache, plusieurs taches, une tache plus foncée, une tache moins foncée. Chez la drosophile, comme chez beaucoup d'invertébrés, ces séquences enhancer, donc qui sont ces séquences ici d'ADN qui reconnaissent ces facteurs, sont généralement relativement concentrées et relativement proches des séquences promoteurs. Quand je dis relativement proches, pour ceux d'entre vous qui travaillent dans ce domaine, je dirais de l'ordre de 50, de 100 kilobases maximum. C'est assez remarquable parce que chez les vertébrés, on a une situation qui est relativement différente. En fait, il se trouve que chez la mouche, la concentration de gènes par unité de longueur d'ADN est relativement plus élevée que chez les vertébrés. Chez les vertébrés, on trouve très souvent des gènes qui se trouvent au milieu de ce qu'on appelle des déserts, des gene deserts, qui étaient qualifiés comme tels à l'époque. Quand je dis à l'époque, c'est il y a une quinzaine d'années. Ça vous montre à quel point les choses évoluent rapidement. Avant qu'on s'aperçoive que ces déserts, en fait, étaient remplis de séquences de régulation. Donc on est passé d'un système où le gène était tout puissant. Là, on remonte à l'école bactérienne de Pasteur. Où le gène était tout puissant, avec quelques petits éléments promoteurs de régulation, à une vue de la régulation génétique aujourd'hui qui est totalement inversée. Bien sûr, le gène est important, il va faire une protéine. Donc, c'est important de l'avoir, le gène. Mais ce qui est plus important, c'est que ce gène est flanqué par des collections de séquences de régulation qui vont permettre l'activation à tous ces temps différents, je vous montrais, dans les follicules de moustache, dans les pattes, dans les intestins, dans le système nerveux dorsal. Je vous montre ici un exemple. C'est une revue qui avait été publiée en 2013. Et croyez-moi, c'était relativement nouveau. Et c'est vous montrer encore une fois à quel point les choses changent rapidement dans ce domaine. 10 ans avant 2013, on parlait encore de junk DNA, donc de DNA poubelle, c'est-à-dire les 98% pratiquement d'ADN qui ne contenait pas de gènes. On se disait, c'est de l'ADN poubelle, on ne sait pas à quoi ça sert, donc ça ne doit pas servir à grand-chose. On s'aperçoit aujourd'hui qu'en fait, l'ADN poubelle est probablement beaucoup plus important que l'ADN non poubelle. Ce que vous voyez sur cette image, en fait, c'est ici un gène en noir avec la région promotrice ici. Et puis toutes ces petites barres qui s'étalent sur une mégabase, c'est-à-dire une distance qui est à peu près 10 fois plus grande que la distance moyenne chez la drosophile, en gros. Eh bien, vous voyez que ce sont des éléments enhancers. Et ce que vous voyez là, en fait, c'est une certaine réalité. Ce n'est pas quelque chose qui a été dessiné au hasard. Donc, les conclusions que vous pouvez en tirer sont réelles. Par exemple, le fait que vous voyez ici l'expression dans le tube neural dorsal de ces 4 éléments. Donc, chacun de ces éléments va être capable de dire à ce gène « tu t'allumes dans le système nerveux dorsal ». Alors quand on voit ça, on se dit, il y a quelque chose de spécial ici. Dans ce coin-là, il y a quelque chose de spécial. Mais non, parce que regardez ici. Ici, vous avez une autre séquence qui, de façon identique, peut conduire l'expression dans le système nerveux dorsal. Apparemment, il n'y a pas de logique. Et je dois vous dire qu'on la cherche toujours. Dans la plupart des cas, on cherche toujours à comprendre la logique de la distribution des énoncés. On en reparlera dans les leçons suivantes. Vous voyez ici des petites tâches, qui sont des, peu importe ce qu'elles représentent, et vous voyez qu'il y a des combinatoires. Vous voyez par exemple qu'ici, on a encore une séquence qui peut travailler dans le système nerveux dorsal, mais en plus, elle travaille dans cet endroit-là, dans lequel cette séquence bleue travaille, alors qu'elle ne travaille pas dans le système nerveux dorsal. C'est très intéressant de voir ces systèmes de combinatoires, parce que là encore, si on réfléchit un peu, on peut se dire peut-être que certaines de ces séquences dérivent d'autres. Peut-être que si on a une séquence enhancer et qu'à un moment elle est dupliquée, elle va permettre d'évoluer des spécificités un peu différentes. Moi, je vais garder l'expression dans ce domaine. Toi, tu vas garder l'expression dans cet autre domaine. Alors qu'en fait, la combinaison de ces spécificités dans une seule séquence représenterait un jeu de contraintes qui, au bout d'un moment, bloque le système. Donc, c'est une des façons dont on réfléchit aujourd'hui à l'évolution de ces enhancers, c'est-à-dire des duplications horizontales avec des divergences dans la spécificité. On reviendra là-dessus. Alors, laissez-moi tout de même vous rappeler que quand je dis que cette séquence-là, par exemple, va dire à ce gène-là, tu dois fonctionner, qu'est-ce que ça veut dire ? Ce sont des mots. En fait, ça veut dire que cette séquence, d'une façon ou d'une autre, doit donner un signal à ce gène pour être transcrit. Ce n'est pas le gène qui va donner ce signal, c'est quelque chose qui va arriver sur le gène et qui va démarrer la transcription de cette séquence d'ADN. Alors, je ne vais pas vous ennuyer avec la mécanique de la transcription, encore que je vous avoue que ce n'est pas du tout ennuyeux. C'est un peu rude, mais je pense que c'est tout de même utile de vous rappeler les quelques bases simplement nécessaires pour essayer de visualiser comment ces enhancers fonctionnent. Et pour commencer, la chose principale, c'est qu'est-ce que c'est que la transcription ? La transcription, c'est la copie d'une des deux molécules d'ADN en molécule d'ARN. C'est la production d'un ARN. Vous voyez ici un morceau de chromosome dans le noyau qui est en magenta. Ici, vous avez un chromosome. Et puis là, vous avez un gène. Et cette grosse molécule qui s'appelle la RNA polymérase, c'est un complexe de molécules, une énorme machinerie, va être capable à la fois une partie de cette molécule d'ouvrir l'ADN et puis de lire. Alors, vous vous souvenez sans doute que pour chaque base d'ADN, ici, eh bien, on va rajouter la base complémentaire. Donc là, l'ARN va être une copie complémentaire de la séquence d'ADN, sauf que ce qui caractérise les ARN, sauf qu'on va utiliser une base pyrimidique différente, plutôt que la thymine, on va utiliser l'uracile. Donc plutôt qu'on ait une agrégation entre la thymine et l'adénine, qui sont donc les deux bases qui sont complémentaires dans l'ADN, on va remplacer cette base T par une base U. C'est ce qui caractérise les ARN, en fait. Cet ARN, vous le voyez là, c'est une molécule simple brun, évidemment, puisqu'elle est copiée que d'une molécule d'ADN. Et cette molécule va d'abord apparaître comme un transcrit non processé, c'est-à-dire une grande molécule d'ARN. Et puis, il va se passer dans le, dans le noyau une série d'événements pour enlever de cet ARN certaines séquences qui ne sont pas utiles, qui sont même délétères à la production de la protéine. C'est des séquences qui sont codées par les régions introniques du gène. Et je vais revenir sur ce point, parce que de façon extrêmement curieuse, une très très grande quantité d'enhancers se trouve dans les régions introniques des gènes voisins du gène qu'elle régule. Pourquoi on... Quelques hypothèses qu'on pourra discuter. Donc on a ce phénomène qu'on appelle un phénomène d'épissage, c'est-à-dire cette grande molécule d'ARN va perdre certains morceaux, et puis on va produire un ARN final, on va consolider la fin, qu'on appelle la partie 3', on va consolider le début, qu'on appelle la partie 5', pour que ce soit stabilisé, et puis une fois tout cela fait, on envoie ça dans le cytoplasme, et dans le cytoplasme, cet ARN va être pris en charge par une autre machinerie encore plus complexe qui va donc copier ou traduire cette molécule d'ARN en protéines, en rajoutant des acides aminés qui correspondent à 3 bases d'ARN. D'accord ? Voilà, ça c'est vraiment le très, très basique. Donc je vous ai mis là, je dirais, la structure vraiment bêta d'un gène vertébré, eucaryote, je devrais dire, mais vraiment vertébré dans le sens où on a des enhancers très distaux, très éloignés. Vous avez ici la séquence promoteur, en vert, qui est une séquence qui, en elle-même, peut activer un gène, mais je dirais à un niveau extrêmement basique. C'est une séquence, c'est la séquence qui va reconnaître l'arrivée de cette grosse machinerie qui va transcrire l'ARN. Mais la séquence en elle-même n'est pas suffisante vraiment pour avoir une production d'ARN suffisante. C'est pour cela qu'en amont de cette séquence, on va trouver ces éléments de contrôle que l'on va appeler proximaux s'ils se situent vraiment à proximité du promoteur, à proximité, je dirais peut-être 5 kilobases, 10 000 bases, 15 000 bases, qui est très très petit pour de l'ADN, ou bien des éléments distaux qui, eux, vont se trouver à une mégabase, à 500 kilobases, donc très très loin dans le génome. Vous voyez ici la structure de l'ADN avec un exon, un intron, un exon, un intron, un exon. Ici, un signal poly-A qui veut dire on arrête pour l'ARN, hein, c'est un signal de fin, on va rajouter une queue de A, enfin, peu importe. Et vous voyez ici la production de l'ARN qui contient ces introns et ce phénomène dont je vous parlais, qui est donc ce phénomène d'épissage par lequel ces introns vont être enlevés, perdus. Et on a ici l'ARN final, modifié dans sa partie terminale, modifié dans sa partie proximale, et cet ARN va être, cet ARN messager, cette fois, va être exporté pour fabriquer des protéines. Quand on parle de régulation de gènes eucaryotes, en fait, on parle de deux choses qui sont assez différentes. Et on a, je dirais, alors c'est un peu réducteur, mais je dirais qu'on a quand même deux grandes catégories de types de régulation. Prenez par exemple une enzyme qui travaille dans chacune de vos cellules pour assurer la glycolyse, ou peu importe, pour assurer la fabrication du réticulum endoplasmique, quelque chose qui existe dans toutes les cellules de votre corps. Chaque cellule en a besoin à des niveaux très bas. Vous n'avez pas besoin d'une structure de ce genre. Vous n'avez pas besoin d'avoir des éléments de régulation différents, pléiotropiques, etc. On va appeler ces gènes, on va appeler généralement, ces gènes sont appelés des gènes de ménage. Ça fait un peu de cas du travail du ménage, mais, des housekeeping genes en anglais, c'est-à-dire des gènes qui n'ont pas vraiment besoin d'une expression spécifique. Et ces gènes vont être exprimés avec des mécanismes relativement différents. On n'a pas besoin d'avoir des séquences enhancers hyper spécifiques. On va simplement avoir un niveau de base et fabriquer ces gènes. Là encore, curieusement, beaucoup d'enhancers de gènes qui ne sont pas des gènes housekeeping se trouvent dans des introns de gènes housekeeping qui flanquent ces gènes. Extrêmement intéressant. Comme si en fait ces séquences enhancers avaient besoin de se trouver dans un environnement qui n'est pas fermé, qui est qu'on pourrait appeler poised, un environnement qui est primé, hein, où il y a déjà un petit peu de fonction, ce qui fait que ces séquences d'ADN seraient en quelque sorte prêtes à fonctionner au besoin. Donc ces séquences enhancers concernent vraiment les gènes dont les produits sont nécessaires de façon relativement massive à des temps dans des types cellulaires précis. Vous vous souvenez, l'image que je vous ai montrée de ce foetus avec ce bleu, c'est quand même fort. Je veux dire, c'est pas de la petite expression. Hein. On est vraiment dans des situations où, soudainement, dans un type cellulaire, quelque part, il faut y aller. Hein. C'est pas vraiment... Il faut vraiment produire pour pouvoir passer sur cet état de différenciation cellulaire. Puis ensuite, cette énorme machinerie, il faut l'arrêter. C'est pas simple d'arrêter une machinerie comme ça. D'où, évidemment, la nécessité de disposer de ces interrupteurs. Et ce sont ces interrupteurs qu'on appelle les séquences enhancers. Alors, un tout petit mot sur l'histoire. C'est toujours intéressant de regarder un peu comment ça s'est mis en place. Dans les années 80, début des années 80, beaucoup de laboratoires qui font de la biologie moléculaire travaillent sur des virus, parce que c'est vraiment le matériel de choix. C'est petit, on peut les faire pousser, on n'a pas accès à de l'ADN génomique à cette époque-là. Donc on travaille avec des virus, en particulier avec un virus qui s'appelle SV40. Et c'est à ce moment qu'on commence à avoir quelques gènes eucaryotes clonés. Quelques gènes eucaryotes, dont la bêta-globine de lapin. On verra dans quelques leçons, on parlera beaucoup de l'alpha-globine, des problèmes de la thalassémie, etc., qui sont des problèmes dus à des enhancers. C'est un gène c'est un des premiers gènes à avoir été cloné avec l'insuline. C'est assez intéressant de voir quels sont les premiers gènes qui ont été clonés. L'insuline, la globine, sont des gènes qui ont vraiment des importances sociales très élevées. Et donc, on essaye, à cette époque, d'exprimer ce gène de la globine dans des cellules. Comment va-t-on faire ça? Essayons de le rentrer dans un plasmide, donc dans un petit cercle d'ADN viral. Et donc le laboratoire de Walter Schaffner à Zurich va introduire ce gène de la bêta-globine au milieu d'une unité de transcription, ici, enfin un peu en amont, qui, dans ce virus SV40, transcrit ce qu'on appelle des gènes précoces. Donc quand le virus infecte, il va y avoir transcription de gènes. Ici, il y a le promoteur, il y a quelques séquences d'ADN, et puis des séquences répétées de 72 paires de bases, ici, dont personne ne sait à l'époque à quoi elles ne servent, évidemment. Et donc Walter Schaffner va rentrer ce gène de la globine dans les deux sens, en essayant de produire de la globine, de l'ARN de la globine. Et puis, il va s'apercevoir d'une chose extrêmement curieuse. Donc, vous avez ici, sur la gauche, je ne vous parle pas de la méthode de détection, c'est ce qu'on appelle une protection à l'ADN AS1. Ici, c'est la position de la de l'ARN de globine natif. Ici, vous avez deux lignes, celles-ci qui sont les mêmes lignes, sauf que dans cette ligne, il remarque que la construction qu'il a faite avec le virus SV40 a conservé ces petits repeats de 72 paires de bases. Alors que dans la ligne à côté, ici, vous voyez que c'est la même construction, mais dans laquelle ces repeats de 72 paires de bases n'ont pas été conservés. Il estime à l'époque, c'est assez intéressant de voir la façon dont c'est fait, par une sorte de, en utilisant un scanner de photos, il estime qu'il y a une différence de 200 fois, là on a une exposition qui est plus forte, de 200 fois entre cette condition et celle-ci. Vous voyez ici, il dit l'intensité entre ces deux lignes a été mesurée à 200 fois. Autrement dit, quand vous avez le même gène de la globine avec un promoteur, peu importe, et que vous avez ces repeats de 72 paires de bases, vous activez la transcription de ce gène 200 fois plus que quand vous ne les avez pas. Il se dit, il y a quelque chose de bizarre, c'est la découverte des séquences enhancer. Ce n'est pas lui qui va trouver ce mot d'enhancer, c'est un terme qui sera proposé par Michael Bochan à Berkeley à cette époque-là. C'est une découverte qui est assez compétitive à l'époque. Il y a deux autres laboratoires qui travaillaient sur ce genre de choses, le laboratoire de Pierre Chambon à Strasbourg et celui de George Curie aux USA. Mais c'est clairement cette publication de Cell de Walter Schaffner qui scelle en quelque sorte cette découverte. Cette publication est absolument incroyable. Très souvent, on peut en quelque sorte réinterpréter ce que les gens ont écrit. Quand vous êtes dans un contexte actuel et que vous lisez une publication qui a été publiée il y a 30 ans, si la publication a été écrite de façon assez vague, ce n'est pas difficile de réinterpréter ce que vous aimeriez que la personne ait dit, hein, en disant, voyez, là, ce n'est pas le cas. Là, c'est vraiment d'une précision chirurgicale. Et je vous ai mis ici la fin de la discussion de cette publication de 1981. Taken together, donc dans l'ensemble, il apparaît possible que ces enhancers cellulaires activent les gènes dans chaque chromosome domaine, à l'intérieur de domaines chromosomiques, et que les classes d'enhancers différents sont impliquées dans le développement ainsi que dans l'expression tissu spécifique. On va voir dans la leçon suivante qu'effectivement, ces enhancers, ces paysages de régulation que je vous montrais, correspondent exactement à des domaines de chromatine. En fait, c'est des domaines de chromatine qui sont isolés des domaines voisins. C'est tout juste dans cette conclusion. En 2015, Walter Schaffner a publié une revue, une sorte d'historique de la découverte des enhancers que je vous recommande si ça vous intéresse. Et il propose ce schéma qui est un schéma qui résume bien la situation. Simplement, un promoteur, un gène, ici très simple, deux exons, un intron, des enhancers que vous pouvez avoir soit en amont, soit en aval, peu importe. Pourquoi peu importe? Parce que l'ADN linéaire, c'est une représentation graphique. Dans la vraie vie, l'ADN n'est pas linéaire, c'est une pelote. Donc que vous soyez ici ou là, c'est la topologie générale qui compte, c'est pas la position. Par contre, vous voyez ici des éléments qu'il appellera des silencers, donc par opposition aux enhancers. Aujourd'hui, en fait, on aurait presque tendance à dire des enhancers négatifs, finalement, des enhancers qui lient des répresseurs, hein, par abus de langage. Et puis ici, en brun, ces deux barres qui représentent justement les frontières d'un domaine chromatinien qui fait en sorte que tout se passe bien à l'intérieur de ce domaine. Hein. Il ne faut pas que des enhancers voisins viennent activer des gènes pour lesquels ils n'ont pas été préparés. Hein. Parce que si les enhancers peuvent activer des gènes cibles à une mégabase, c'est formidable. Mais ça veut dire que comment fait-on pour ne pas activer les gènes qui ne doivent pas être activés à une mégabase? Donc ça pose un problème supplémentaire. Et une des réponses à ce problème, c'est de compartimentaliser la chromatine. On verra que c'est une façon relativement efficace de séparer les régulations. Alors, la pléiotropie, ce que je vous montrais tout à l'heure avec ce foetus, avec ces sites d'expression multiples, c'est quelque chose que l'on confond souvent avec la multifonctionnalité, ce qui n'est pas un gros problème pour moi, en fait, mais c'est cette capacité d'un gène de pouvoir être actif dans des tissus différents à des temps différents, alors que la multifonctionnalité est plutôt définie comme une protéine qui pourrait avoir des fonctions différentes dans des tissus différents. C'est quelque chose de... Ça touche plutôt les puristes, mais je pense qu'il faut simplement qu'on s'entende que quand je parle de pléiotropie ou de multifonctionnalité, je fais référence au concept qu'un gène particulier peut avoir des fonctions différentes dans des tissus différents, dans des cellules différentes, à des temps différents. Ce concept de pléiotropie, il est assez intéressant, en fait. On a l'impression qu'il est récent, mais pas du tout. C'est un concept qui est... Le mot pléiotropie est proposé par Ludwig Plate, qui est un étudiant de Ernst Haeckel à Iéna. Il va appeler ça I call a unit of inheritance pleiotropic si plusieurs caractéristiques en dépendent. Ces caractéristiques apparaîtront toujours ensemble et seront donc corrélées. En fait, on a là la définition d'un syndrome en médecine, c'est-à-dire des problèmes génétiques qui apparaissent toujours ensemble et donc qui sont corrélés. Et Hans Grünberg, en 1938, lui qui est un peu picky, en fait, va dire oui, attention, la pléiotropie, on a deux types de pléiotropie. On a une pléiotropie qui est vraiment authentique et qui est basée sur l'épissage différentiel. Autrement dit, un gène peut donner des protéines différentes. Et puis une pléiotropie fallacieuse qui dit que un gène peut fonctionner dans des endroits différents. Franchement, je pense qu'on peut ignorer Grünberg. Je vous le montre pour des raisons historiques, parce que c'est toujours intéressant de voir comment les concepts évoluent. En fait, cette notion de pléiotropie remonte bien avant Ludwig Plate. Elle remonte même au début du 19e. Si vous regardez les travaux de Johann Friedrich Meckel, alors Meckel... S'il y a des médecins dans la salle, évidemment, ils le connaissent, puisque Meckel a légué à la société le cartilage de Meckel, qui est un cartilage qui disparaît au cours du développement. Le diverticule de Meckel, qui est un anatomiste formidable, hein, Meckel, qui est aujourd'hui reconnu vraiment comme le fondateur de la tératologie avec Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, avec lequel il correspondait beaucoup. Mais Meckel venu à Paris au début de 1800. En fait, Meckel, il remarque que certains traits pathologiques, certaines malformations sont parfois associées chez le même patient et il définit la notion de syndrome. En fait. Il va même aller jusqu'à laisser son nom à un syndrome qui aujourd'hui est plutôt appelé le Meckel-Gruber ou le Gruber-Meckel, qui produit en fait une polydactylie. Donc ce sont des patients qui ont des doigts supplémentaires, une polykystose rénale, donc des kystes dans les reins, et puis une encéphalocèle, une hernie du cerveau. Quand on regarde ça, on se dit, mais comment c'est possible? Il n'y a vraiment aucun lien entre ces traits. C'est le même gène. C'est une pléiotropie. C'est la définition d'un syndrome. Donc quand on voit ces patients, en fait, on voit à l'œuvre l'évolution de ces séquences de régulation, certaines étant parties dans le cerveau, qui donne l'encéphalocèle, certaines étant parties ici, certaines étant parties là. Meckel, il va aller même beaucoup plus loin, en fait. Alors, je ne vais pas vous parler Meckel pendant un quart d'heure, mais Meckel, il va même poser une sorte de conjecture qui sera reprise par le fils d'Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, qui va publier un traité de tératologie qui est absolument extraordinaire. Ça va être le premier, en fait, à produire un classement de la tératologie chez les humains, et qui va concerner les effets potentiels de ces structures de régulation. Il ne le sait pas à l'époque, évidemment, il l'ignore totalement, on ignore totalement ce qui se passe au niveau de ces gènes. Mais il remarque que toutes les combinaisons ne sont pas possibles. Il se dit, mais par exemple, dans ce cas de ce syndrome, bon, c'est curieux, on a des doigts, une polykystose et une encéphalocèle, ok. Mais pourquoi pas un bec de lièvre en plus? Et pourquoi les gens qui auraient un bec de lièvre ou un autre syndrome vont avoir des caractéristiques qui sont aussi curieuses que celles-là, dans leur association, mais différentes? Et en fait, mais qu'elle touche là à une notion qui est absolument essentielle dans le développement et dans l'évolution, qui est la notion de contrainte, qui est l'idée qu'on ne peut pas tout faire, en fait. Et la raison pour laquelle on ne peut pas tout faire, en partie, touche à l'organisation de ces séquences de régulation, puisque quand elles ont été construites pendant des dizaines de milliers d'années, c'est extrêmement difficile de les manipuler ensuite. Meckel, il remarque que toutes les combinaisons ne sont pas possibles. Et en fait, il reprend un dessin de... Bon, je ne vais pas vous ennuyer avec Meckel, mais regarde, je vous montre ce dessin parce qu'il est magnifique. C'est un des fameux monstres xiphodimes d'Isidore Geoffroy Saint-Hilaire. Alors, quand vous regardez ce dessin, on voit ici un serpent, ce sont tous des monstres xiphodimes, des duplications de la tête. On se dit, mais c'est curieux, comment la tête peut se dupliquer? Meckel, pas du tout. Meckel, il se dit, mais comment est-ce possible qu'on ne trouve pas des monstres à trois têtes? Parce qu'on n'en trouve pas. C'est là qu'on rentre quand même dans une façon de penser qui est un peu nouvelle, finalement, de se dire qu'il y a des incongruités, mais il y a aussi des impossibilités. Et qu'en fait, le développement embryonnaire, avant tout, c'est une suite d'impossibilités. L'embryon doit suivre une trajectoire qui est faite d'impossibles. Alors, comment trouver, comment valider ces fameuses séquences enhancers? Bon, historiquement, toujours actuellement d'ailleurs, historiquement, c'est par comparaison de séquences. Pourquoi? Ben, c'est très simple. On se dit, si on compare une séquence d'ADN entre les oiseaux et nous, eh bien, ce qui est maintenu, ce qui est resté, doit être utile. C'est ce que l'évolution n'a pas pu enlever, ça doit être utile. Alors, qu'est-ce qui est utile? Ben, les séquences codantes, les gènes. Et puis, s'il y a d'autres séquences qui sont conservées, ben, elles doivent bien servir à quelque chose. Donc, peut-être, ce sont des séquences de régulation. Et donc, la comparaison de séquences est évidemment le premier critère qui a été utilisé pour essayer de trouver des séquences enhancers. Mais le problème, c'est qu'il faut savoir ce que vous comparez. Parce que dans les années 80, 90, 2000, même jusqu'aux années 2000X, comparer des génomes entiers, c'était compliqué. Donc il fallait savoir que les morceaux d'ADN que vous comparez sont en fait des morceaux orthologues, c'est-à-dire les mêmes morceaux dans des espèces différentes. Et une bonne façon d'être sûr que vous travaillez avec des morceaux orthologues, c'est de prendre une région qui est synténique, c'est-à-dire une région d'un chromosome humain, par exemple, qui est conservée chez les oiseaux ou conservée chez les amphibiens. Ça existe. Même chez le poisson, ça existe. Donc des morceaux de chromosomes, ils ne sont pas énormes, mais des morceaux de chromosomes dans lesquels l'arrangement des gènes est conservé entre, disons, les oiseaux et ou même entre la souris et les humains. Si c'est le cas, vous pouvez donc prendre un gène A, un gène B chez les humains, un gène A, le même gène A, le même gène B chez X, les oiseaux, etc. Et puis comparer ce qu'il y a entre. Parce que ce qu'il y a entre, vous savez en fait que c'est une région orthologue. Et ça, c'était fait à l'époque à l'envi. Vraiment, énormément de gens se sont lancés là-dedans. Je vous en montre un exemple ici qui, pour vous donner une conclusion qui est assez utile en fait. On a ici trois gènes qui sont orthologues chez la souris, chez le poulet, chez le poisson. Et donc lorsque l'on aligne ces séquences, tout ce qui est conservé et qui n'est pas de nature codante, qui n'est pas de nature génique, peut être estimé comme étant une séquence potentiellement de régulation. Ce que je vous montre ici, en fait, c'est le point que j'aimerais faire, c'est que lorsque vous alignez ces séquences, vous voyez ici, entre la souris et le poulet, vous avez une distribution de ces conservations de séquences qui est beaucoup plus longue que lorsque vous rajoutez le poisson. En fait, les logiciels qui étaient utilisés à cette époque étaient vraiment extrêmement amateurs. Mais par exemple, si vous regardez cette partie-là, uniquement cette partie-là, bien il est clair que ce n'est pas significatif. Donc la raison pour laquelle ces étoiles existent ici, donc vous avez une conservation de ces bases d'ADN, c'est parce que ici vous avez une très bonne conservation et donc vous avez un alignement qui se fait et qui va rechercher d'autres séquences un peu plus loin. Mais si vous ne regardiez que ces séquences plus loin, ça ne sortirait pas, évidemment. Okay. Mais si vous regardez l'homologie avec le poisson, ici, avec le poisson zèbre, vous voyez qu'en fait, on ne conserve qu'une partie de cette séquence. Par exemple, cette région-là, qui est très conservée entre la souris et le poulet, on ne la trouve pas chez le poisson. Et ça, c'est intéressant à deux égards. C'est intéressant d'un point de vue évolutif, parce qu'on se dit, on peut commencer à réfléchir sur les motifs qui pourraient être reconnus, quelles sont les protéines qui reconnaissent, les facteurs qui reconnaissent ces motifs. Mais c'est aussi intéressant parce que ça permet d'utiliser cette augmentation de divergence comme en fait un moyen de focaliser sur la région la plus importante de cette conservation de séquences. Hein ? On se dit, mais si ces séquences sont conservées jusque chez les poissons, c'est que vraiment, elles doivent être utiles. Vraiment, elles doivent lier un facteur absolument clé pour la régulation de ces gènes. Donc c'est comme ça que ça fonctionnait à l'époque. Aujourd'hui, on utilise des approches qui sont beaucoup plus moléculaires. Je vous en parlerai la prochaine fois. Mais j'aimerais vous montrer comment, une fois ces séquences ici isolées, on peut essayer de mettre en œuvre un test fonctionnel pour vérifier que ce sont effectivement des séquences de régulation. Et ça fait appel à des systèmes qu'on appelle des systèmes reporteurs, dans lesquels on va introduire ces séquences en amont d'un promoteur, peu importe finalement, d'un promoteur qui fonctionne, et puis d'un gène qui nous permet d'avoir un readout clair. Il y a actuellement deux grands systèmes. Un système qui est basé sur le gène LAC-Z, qui est en train de disparaître, pour des raisons que je vais vous expliquer. Et puis un système qui est basé sur des gènes qui produisent de la fluorescence. Et je vous montre ici les deux qui sont utilisés dans la même expérience, où on a ici un gène particulier avec schématiquement deux enhancers. Il y en a beaucoup plus, mais j'en ai mis que deux pour faciliter la compréhension. Cet enhancer-là fonctionne dans les organes génitaux externes. Celui-ci fonctionne dans les doigts, des mains et des pieds. Quand vous regardez la distribution des ARN de ce gène, c'est ce que vous voyez sur la gauche. Vous voyez donc des ARN dans le bout des doigts, des mains et des pieds, et vous voyez des ARN dans les organes génitaux externes. Ce sont les ARN. Quand vous prenez cette séquence-là, qui est la séquence qui, en principe, devrait conduire l'expression dans les doigts des mains et des pieds, et que vous la mettez en amont d'un promoteur avec une fluorescence, vous injectez cette construction dans une souris, et vous voyez maintenant que vous avez une fluorescence très forte dans le bout des doigts des mains et des pieds, alors que, on ne le voit pas très clairement, mais il n'y a aucune fluorescence dans les organes génitaux. Et inversement, quand vous prenez cette séquence-là, qui est suspectée d'être active dans les organes génitaux, vous la mettez en amont d'un promoteur avec cette fois une coloration LAC-Z, donc une bêta-galactosidase, c'est une protéine qui va, en présence d'un substrat, qui va produire une couleur bleue. Eh bien, vous voyez maintenant que vous avez une coloration extrêmement précise dans les organes génitaux externes, mais que vous n'avez absolument rien dans le bout des doigts. Donc, c'est pas qu'on a un petit peu ou un peu de... Non, rien. C'est tout ou rien. Cette séquence-là fonctionne 100% dans les doigts, 0% dans le tubercule génital. Cette séquence-là fonctionne 100% dans le tubercule génital, 0% dans les doigts. Cette séquence LAC-Z, elle a été extrêmement utilisée. C'était la seule façon, avant la découverte de ces protéines qui produisent la fluorescence, elle a été extrêmement utilisée en transgenèse pour essayer d'étudier ces séquences enhancers. Le début, en fait, remonte à un travail de Jean-François Nicolas, qui était dans le laboratoire de François Jacob. C'est cette publication de 1986. Est-ce qu'il va faire? Alors, François Jacob, évidemment, puisque le Perron Lac, à l'époque, était monnaie courante à l'Institut Pasteur. Et donc, ce que va faire Jean-François Nicolas, c'est de prendre ce gène LAC-Z, qui donc code pour cette protéine bêta-galactosidase, le mettre dans un virus, souvenez-vous, un autre virus, mais un virus, parce qu'à l'époque, c'est comme ça qu'on essayait de produire ces protéines, et d'injecter ce virus, qui est un virus virus qui produit une leucémie chez la souris, qu'on appelle le Mullany Murine Leukemia Virus, et d'injecter ce virus dans des embryons de souris, en une façon assez dure, puisque c'est une injection intra-utérine dans le foetus, à 7 jours, entre 7 et 11 jours. Donc on anesthésie la souris, on fait une incision et on injecte. Et puis il va trouver des cellules qui vont se développer de façon clonale, vous voyez ici, donc plusieurs cellules qui dérivent d'une même cellule, dans la peau par exemple, et qui vont, après réaction chimique en utilisant un substrat et de la bêta-galactosidase, vont produire cette coloration bleue. Ça, c'est une publication donc, qui concerne qui ne concerne pas les enhancers, en fait, qui concerne directement l'injection de ce gène LAC-Z dans des foetus de souris, mais c'est vraiment la première publication qui va montrer l'utilisation potentielle de ce gène LAC-Z pour étudier des domaines d'expression chez la souris. C'est une vraie révolution, en fait. Et la première... Alors, je vous montre juste une chose ici que j'ai trouvée très intéressante. Vous voyez, une des conclusions, c'est que l'enzyme est exprimée de façon très stable dans les cellules filles des cellules infectées pour plusieurs générations en absence de pression sélective. Donc à l'époque, le fait que cette coloration soit à la fois la protéine qui produit la coloration et la coloration soit très stable est considéré comme un grand avantage parce qu'on peut suivre de façon clonale les cellules qui se divisent. Mais lorsque l'on y réfléchit, évidemment, aujourd'hui, on se dit c'est un inconvénient parce que cette coloration LAC-Z ne vous montre pas où un gène est transcrit. Elle vous montre où un gène est transcrit ou où un gène a été transcrit. D'accord ? Dans les cellules mère, grand-mère, arrière-grand-mère de la cellule que vous regardez. Donc on ne peut pas tirer de conclusion sur le fait que les cellules colorées sont des cellules qui expriment le gène particulier. Mais je dois vous dire toutefois que ça a été vraiment une révolution. Et que tout ce que l'on, une grande partie des choses que l'on sait aujourd'hui sur le fonctionnement de ces enhancers dérive de l'utilisation de ce gène LAC-Z. Ce que je vous montre ici, c'est la première publication qui vient du laboratoire de Chi, Nguyen Hu, qui malheureusement est décédé à la fin des années 90, et qui a été le premier à utiliser ce gène in toto, dans l'embryon, en prenant ici, encore une fois, une région orthologue, en se disant, puisque cette région est conservée entre ce gène 1.2 et 1.3, puisqu'elle est conservée entre différentes espèces, elle doit contenir des choses intéressantes. Alors, prenons toute cette région et mettons-la en amont d'un gène LAC-Z avec un promoteur, injection dans la souris, et vous voyez que ce foetus est perméabilisé, coloré, et on voit effectivement que cette région-là est capable de conduire l'expression d'un gène dans une partie du système nerveux dorsal qui correspond exactement, on l'a su par la suite, à l'endroit où ces gènes 1-1, 1-3, etc. sont exprimés. Ça, c'était vraiment la première publication qui a validé l'utilisation de ce système de reporter pour étudier les enhancers. Avant de terminer, je vais encore faire un tout petit point sur les avantages et les désavantages. Donc, comme je le disais, c'est un système qui est extrêmement sensible. Si par exemple vous souhaitez voir la distribution dans des axones, par exemple, de neurones particuliers, c'est un système de choix, là où on peut vraiment aller au niveau cellulaire pour voir, parce que la coloration ça fait des petits cristaux qui sont extrêmement stables et très localisables. Non seulement on peut le détecter in toto, mais également en section histologique, ce qui est aussi extrêmement appréciable. Comme la coloration est forte, on peut sectionner l'embryon et vraiment aller au niveau cellulaire. Et puis une coloration très stable. Les inconvénients, évidemment, c'est un système statique, c'est-à-dire que pour perméabiliser l'embryon et pour faire la réaction, il faut fixer. Et si on fixe, on n'a plus d'embryon. Donc on ne peut pas avoir une vue dynamique de ce qui se passe. La pénétration de la fixation, elle est assez bonne dans les embryons très précoces. Plus on va tardivement, plus c'est compliqué d'introduire les substrats à l'intérieur du foetus. Et donc on va avoir un biais dans la révélation de la coloration. Et puis évidemment, c'est une coloration très stable, donc c'est un avantage, mais c'est un inconvénient. Et puis il n'y a qu'une seule couleur. Alors si l'on compare avec les systèmes de fluorescence actuellement, On a plusieurs couleurs. On a des protéines fluorescentes qui sont déstabilisées intentionnellement pour qu'on ne les voit que dans les cellules qui les produisent, pas dans les cellules filles. Mais par contre, c'est vrai aussi que généralement, on a une localisation cellulaire qui n'est pas aussi bonne, et puis on a un signal qui n'est pas aussi fort. Alors, le grand avantage de la fluorescence, c'est bien entendu qu'on peut suivre, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir un embryon mort, donc on peut suivre la dynamique de l'expression, et puis ça permet aussi de trier des cellules avec un trieur de cellules selon la fluorescence. Je vous montre une dernière image pour aujourd'hui qui est un travail qui illustre bien parfois le problème d'utiliser le gène LAC-Z comme reporter dans certains types d'études. Vous voyez sur la gauche ici un fœtus qui est coloré pour de l'ARN d'un gène particulier qui est un gène qui pulse. Donc qui est exprimé, non exprimé, exprimé, non exprimé, exprimé, non exprimé. Et il pulse dans ces bandes que vous voyez là, qui sont l'endroit où se forment les somites, c'est-à-dire l'endroit où se forment les segments qui vont faire notre corps, hein, qui vont faire nos vertèbres, qui vont faire, etc. D'accord ? Donc c'est quelque chose qui descend vers le bas, comme ça, et puis ça pulse ici, ça pulse, ça pulse, ça pulse, ça pulse. Donc là, vous avez les ARN, et lorsque vous regardez la distribution du LAC-Z, quand vous rentrez un gène LAC-Z à l'intérieur de ce gène, ou peu importe, bien vous voyez que vous avez l'impression que ça remonte beaucoup plus haut que dans le cas de figure du wild type. Pourquoi ? Parce que simplement, une fois que vous l'exprimez dans ce qui pulse en bas, ça va rester parce que c'est stable. Donc en fait, vous avez une vue de la dynamique de l'expression de ce gène qui est totalement erronée. Donc il faut faire attention lorsque l'on utilise ces systèmes de détection. Et c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, vraiment, on utilise principalement les systèmes de fluorescence. Et j'en discuterai la semaine prochaine. Voilà, je vous remercie.
Collège de France. Le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.